Bonne fête Yvette, 13 janvier, aujourd'hui on est lundi, 7h, le journal. Avec Lydie Lahaye. Bonjour Lydie.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Il faut savoir terminer une grève, a dit hier soir Édouard Philippe.
Et déterminé à mener son projet de réforme des retraites jusqu'au bout, le Premier ministre. Mais le retrait provisoire de l'âge pivot permettra-t-il de trouver une sortie de crise? Ce n'est pas sûr, on va y revenir. La grève continue, 40e jour aujourd'hui dans les transports. Le trafic s'améliore à la SNCF, mais de nouvelles journées d'action sont annoncées à partir de demain. Dans le Loiret, que se passe-t-il au centre d'Ouzoir-sur-Loire qui accueille des mineurs isolés. Une association dénonce des conditions de vie inadmissibles. Les handballeurs français éliminés de l'Euro dès le premier tour. Les handballeuses de Fleury battues hier soir par Dijon. Et puis le football avec un match spectaculaire hier soir entre le PSG et Monaco. 3-0. Monaco qui sera l'adversaire lundi prochain en Coupe de France de Saint-Privé-Saint-Hilaire. La météo, Pascal.
Un ciel couvert aujourd'hui avec des éclaircies qui reviennent en cours d'après-midi. Température toujours douce, 8-9 degrés sur Loire. Ouais, cher. On y revient à la fin du journal.
Le gouvernement a donc entrouvert la porte au compromis ce week-end avec le retrait du fameux âge pivot à 64 ans, mais la lettre d'Édouard Philippe n'a pas pour autant stoppé le conflit. Il a accepté de retirer cette mesure, mais avec des conditions. C'était très attendu, mais ça ne suffit pas. Et la grève sur le terrain va continuer, Sonia Princy.
C'est un petit pas qui permet de relancer les négociations et de ne plus braquer les syndicats réformistes sur la question de l'âge pivot à 64 ans. Mais cela ne résout pas tout. La conférence de financement devra proposer des solutions pour atteindre l'équilibre financier du système de retraite à l'horizon 2027, à condition, a précisé Édouard Philippe, de ne pas baisser les pensions, sur ce point tout le monde est d'accord, ni d'augmenter les cotisations patronales. À partir de là, les positions divergent. Pour le camp réformiste CFDT-UNSA, il existe d'autres mesures que l'âge pivot, d'autres financements possibles, la voie est ouverte. À l'inverse, les syndicats qui continuent à s'opposer à un système universel à points, CGT, FO notamment, considèrent que la marge de manœuvre imposée par le Premier ministre est trop étroite. Résultat, l'intersyndicale contre la réforme des retraites maintient son appel à la mobilisation à partir de demain et avec jeudi une nouvelle journée de grève et de manifestations interprofessionnelles. La grève va continuer dans les transports, dans les raffineries, parmi les enseignants, les avocats. Il faut savoir terminer une grève, disait hier soir sur France 2 Édouard Philippe, mais ce ne sera pas pour cette semaine.
Et les avocats à Orléans décideront dans la journée des suites de leur mouvement. Ils n'assurent plus les audiences depuis une semaine. Une réunion est prévue à Paris en fin de matinée avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Au même moment, à Orléans, ils se réuniront symboliquement sur les marches du palais de justice. Que pensent les patrons de ces dernières avancées dans le conflit? Nous poserons la question à Valentin Douliger, le président de l'UDEL 45, représentant du MEDEF dans le Loiret. Il sera notre invité tout à l'heure à 8h moins le quart.
La gauche partira-t-elle unie ou divisée aux élections municipales à Orléans?
L'écologiste Jean-Philippe Grand, qui est parti tôt en campagne, a adressé une nouvelle et dernière offre de rassemblement à plusieurs candidats. Cette offre vaut jusqu'à minuit ce soir. Il a réussi à convaincre Philippe Rabier et son collectif Orléans Ensemble qui a donné son feu vert ce week-end. En revanche, l'union semble toujours très compliquée avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Vous retrouvez plus d'informations sur notre site francebleu.fr. Les mineurs isolés hébergés à Ouzoir-sur-Loire sont-ils enfermés dans ce centre? C'est ce que dénonce le COGI, le collectif de soutien, vient d'écrire au président du conseil départemental du Loiret en alertant sur les conditions de vie d'une quarantaine d'adolescents qui y résident. Ségolène Petit est membre du collectif. Elle évoque, écoutez, de nombreux dysfonctionnements.
Ce sont des jeunes tous adolescents qui ont besoin d'être nourris correctement. Ils sont tous affamés. En plus de ça, ces jeunes, à l'intérieur du centre, sont coupés de tout le reste du monde. Ils n'ont pas possibilité de téléphoner, de voir la télévision, d'avoir le wifi, etc. Alors qu'on sait que maintenant, c'est quand même des moyens de communication qui aident quand même à la socialisation. Et puis, pas possibilité d'accéder à ces chambres avant 22h le soir. Les fenêtres sont condamnées. C'est vraiment un lieu qui fait vraiment penser à de l'enfermement. Il y a un total désœuvrement sur place.
Ségolène Petit assure que l'accès a été refusé au collectif, qui n'a pas pu par lui-même véritablement constater la situation. Tout ceci est faux, répond le président du conseil départemental du Loiret, Marc Godet, qui dit qu'il n'a rien à cacher. Et son constat, écoutez, est bien différent.
Moi, je trouve que les termes sont quand même assez exagérés. Quand les jeunes disent on n'a pas à manger, bah, c'est faux. Enfin, ils n'aiment pas forcément ce qu'il leur est proposé. Donc, il y a eu un effort de fait. Mais évidemment, on mange pas que des frites, on mange pas que du McDo. Et puis, quand je lis, ils sont loin de tout. Bah oui, les jeunes qui habitent Herceville ou dans des villages qui sont éloignés de 30-40 km de Montargis, de Gien, bah, ces jeunes-là, ils s'épanouissent aussi à la campagne. Hein. Après, sur la télévision, ils regardent pas ce qu'ils veulent. Hein. Oui, c'est vrai. L'idée d'Imanis, c'est de faire en sorte qu'ils puissent voir des films un peu culturels quelque part. Ils sont là aussi pour apprendre le français, parce que je leur expliquais aussi, vous devez obéir à toutes nos règles de vie, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est mineur.
Retrouvez toutes les informations sur notre site francebleu.fr.
Un incendie a endommagé cette nuit le foyer des jeunes travailleurs à Orléans.
Le feu a pris vers 4h du matin au FJT de la rue du Colombier. Bilan, un blessé léger. Plus de 70 personnes ont été évacuées par les pompiers. Elles ont été accueillies à la salle des chats ferrés dans le quartier des Carmes. Le feu est totalement éteint. Sans plus de précision sur ce qui s'est passé à Orléans, dans le quartier de l'Argonne, hier soir, une vingtaine de personnes, dont 10 enfants, ont été hospitalisées victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. La faute à un réchaud au charbon qui était resté allumé dans cette maison toute la journée.
On passe au sport et les Panthères de Fleury qui n'ont pas fait le poids hier soir.
Battues 27-31 par Dijon, c'était la 14e journée de la Ligue féminine. Les Fleurissoises ont couru après le score durant tout le match. Elles ont été maladroites, 19 ballons perdus, dont plusieurs dans les dernières minutes de jeu. Des erreurs qui coûtent cher, analyse la capitaine Alexandra Lacrabert.
Je ne sais pas combien de pertes de balles on fait, mais il y a de la maladresse, il y a la street qui fait mal et il n'y a aucune solution qui est apportée. Donc voilà, on perd face à une belle équipe de Dijon qui a eu du mal en début de saison, mais qui commence bien leur début d'année 2020. Donc voilà, on a perdu face à plus fort ce soir. Quand on court après le score et qu'on revient à égalité, c'est souvent l'équipe qui est rattrapée, qui est favorite, parce que voilà, nous on a puisé tellement d'énergie pour revenir qu'il manque un peu de lucidité. On donne pas envie aux arbitres de siffler pour nous. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui font que on n'a pas fait ce qu'il fallait pour avoir la chance de notre côté. Mais voilà, il faut se servir de ce match. On est encore en course dans les play-offs. L'objectif c'est ça. Donc rien n'est catastrophique, même si on aurait voulu gagner à la maison.
Au classement, Fleury reste 6e. Prochain match, ce sera dimanche chez le leader Metz. Grosse déception et c'est la crise hein, dans le hand tricolore masculin. Les Français sont éliminés du championnat d'Europe dès le premier tour, battus 28-26. Par la Norvège.
En football, en revanche, il y avait du spectacle hier soir au Parc des Princes.
En clôture de la 20e journée de Ligue 1, match spectaculaire entre le PSG et Monaco. Score final, 3 buts partout. Satisfaction du gardien monégasque Benjamin Lecomte.
Vraiment, c'est l'une des premières fois de la saison où on voit qu'il y a eu quelque chose collectivement qui montrait qu'on ne baissait pas les bras et que peu importe le résultat, peu importe le score quand il était contre nous ou avec nous, on n'a pas changé notre fusil d'épaule, on a joué avec nos armes et ce qui fait qu'on part avec le nul ce soir. Donc voilà, c'est un très bon point au Parc, ça, on va pas se cacher. Voilà, je sais que beaucoup attendaient ce match-là avec impatience. On a répondu présent, maintenant à nous de le faire encore à domicile contre Paris mercredi.
Voilà, mercredi, ce sera le match en retard de la 15e journée entre les deux équipes hein, qui avait été reporté à cause des intempéries de décembre. Et ce sera dans la Principauté. Puis Monaco, ce sera, vous le savez évidemment, lundi prochain, l'adversaire de Saint-Privé-Saint-Hilaire en 16e de finale de la Coupe de France. Et France Bleu Orléans, toute cette semaine, se met aux couleurs de Saint-Privé. Rendez-vous notamment ce soir à partir de 18h15 dans Tribune 100% Saint-Privé avec autour de la table l'entraîneur Baptiste Redira. Et les deux coprésidents. Et puis on en parlera tous les matins dans nos journaux.
FranceBleu.fr. Toutes les infos pratiques de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu Orléans est sur